Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
Aujourd'hui, on va vous parler du roman « Ni Dieu ni monstre » de Caldwell Turnbull, paru originellement en 2021 sous le titre « No Gods, No Monsters » et en 2024 dans la traduction française de Marie Surgé aux éditions de La Talente. Caldwell Turnbull, né en 1987 au Maryland aux États-Unis, a passé son enfance et sa jeunesse à St. Thomas, une des îles Vierges américaines. Il retourne sur le continent états-unien pour faire des études de littérature et d'écriture, et très vite, il s'intéresse et se forme particulièrement à l'écriture des littératures de l'imaginaire. Parmi les auteuristes qui l'ont influencé, il nomme Ursula Le Guin, Octavia Butler, George Orwell, Alice Munro et N.K. Jemisin. En 2017, il commence à publier des nouvelles dans des magazines ou anthologies de science-fiction, de fantasy et d'horreur. En 2019, son premier roman paraît sous le titre The Lesson, suivi dans les années d'après des deux tomes de la saga Convergence, No Gods, No Monsters et We Are the Crisis. Tout récemment, en 2025, vient de paraître Transmutation Transcience du collectif Darkly Lem qui réunit Caldwell Turnbull et quatre autres auteuristes de science-fiction. Nombre des écrits de Turnbull se déroulent au moins partiellement aux îles Vierges américaines et il y aborde souvent des sujets sociopolitiques, tels que le racisme, les questions de classe, l'altérité. Turnbull a également publié quelques essais où il s'interroge sur la nécessité de production culturelle coopérative ou réfléchit à ce qu'impliquerait un système d'intelligence artificielle sous forme de propriété collective. En 2024, les éditions de La Talente publient les deux premiers tomes de la trilogie Convergence, dont la traduction française de Marie Surgé. Dans cette émission, nous allons vous en présenter le premier, Ni Dieu ni monstre. Aujourd'hui, Caldwell Turnbull enseigne à son tour l'écriture créative à l'Université d'État de la Caroline du Nord, avec un focus sur les littératures de l'imaginaire.
Le roman « Ni Dieu ni monstre » commence avec l'histoire d'un crime policier. Leina apprend la mort de son frère tué par la police. Mais quand une mystérieuse personne lui donne la vidéo du crime, elle découvre que son frère était en réalité un loup-garou, dans un monde où les monstres ne sont pas censés exister. Elle va alors publier la vidéo en ligne, qui sera très rapidement censurée. Mais cette publicisation provoquera un choc social et collectif appelé la fracture, la révélation que les monstres existent. Les bouleversements sont profonds et touchent toutes les sphères de la société. À travers le regard de nombreux personnages, on découvre les conséquences et les mystères qui entourent ce coup d'éclat. Comment la vidéo a pu entièrement disparaître d'Internet comme une manière d'effacer cette réalité ? Comment des monstres vont vouloir se rendre visibles et réclament des droits civiques malgré le climat de haine qui se développe? Comment des sociétés secrètes se forment en quête de pouvoir ou pour protéger les monstres? Comment des personnes sont exploitées pour leur pouvoir ou enlevées, martyrisées et privées de liberté? Comment certaines se battent et tentent d'organiser une solidarité active avec les monstres? «
Présenter le roman « Ni Dieu ni monstre » n'est pas une chose facile. Ce roman se manifeste à la lecture comme une sorte de puzzle, composé de différents fils narratifs qui, pour certains, ne se rejoignent que très tard dans le récit. Le roman est composé de 13 parties comportant à leur tour entre 2 et 9 chapitres plutôt courts. La perspective narrative change selon les parties. Parfois, il y a un narrateur à la première personne qui pendant longtemps reste assez obscur et pas facile à relier au reste. Les autres parties sont écrites à la troisième personne, mais à chaque fois resserrées sur le point de vue d'un des personnages. Mais comme pour rajouter une couche à la confusion, tout n'est pas aussi clairement séparé. Parfois, le narrateur à la première personne intervient brièvement dans le récit, focalisé sur un autre personnage. Parfois, le focus se déplace d'un personnage à un autre. Cette construction du récit peut sembler assez déstructurée au début, et personnellement, j'ai mis un moment pour m'y retrouver. Mais rétrospectivement, on se rend compte qu'il y a un vrai travail de composition derrière tout ça.
Leïna Calvary, Somerville, Massachusetts, 2 semaines avant la fracture. C'est le mois d'octobre 2022 et Lincoln est mort. Leïna, devant le cadavre de son frère, examine le fin drap blanc qui lui couvre le bas du corps. Il lui paraît plus réel que l'homme, même si elle ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a toujours vu la vie dans son frère, alors que maintenant, il n'y a que cette carapace morte. La peau de Lincoln évoque du bois sec. Son nez et ses lèvres sont cireux. Autant de signes d'une perte, d'une absence, qu'on ne remarque que par le vide qu'elle laisse. Son frère est plein de trous. Les oreilles, les narines et les pores sont inutiles, mais toujours familiers. Les points sur ses bras sont familiers aussi. Les traces d'une époque où Leïna était assez proche de lui pour voir le mal qu'il se faisait. Mais à présent, il y a 2 nouveaux trous, gros et pas familiers. L'un est juste au-dessus du cœur, l'autre au-dessus de la tempe droite. Chacun aurait suffi à le tuer, mais ils sont 2, la constellation ébauchée d'un travail bien fait.
Une des choses que cette construction narrative permet à l'auteur, c'est de nous faire rencontrer plusieurs personnages indépendamment, et de nous faire saisir leurs enjeux propres, leur contexte, ce qui les a amenés là, leur quête ou questionnement. Et des personnages, il y en a vraiment pas mal. Une grande partie sont minorisés, soit parce qu'il s'agit de personnes racisées, queer et ou meufs, orphelins ou en situation précaire. Soit parce qu'ils font partie des monstres, ou les 2 à la fois. Sur ces 2 plans, Catwell Turnbull déploie une grande diversité, autant en termes d'identité qu'en termes d'interaction. Les questions de race, sexe et classe sont toujours présentes de manière latente et parfois explicite.
Je m'excuse de procéder ainsi, mais je ne pouvais pas prendre de risque, explique Melkou. Je ne vais pas faire perdre davantage de temps. La mission de notre collectif est de soutenir les mouvements solidaires. Souvent, ça implique d'aider des groupes marginalisés. Certains d'entre vous sont racisés. Certains, comme moi, font partie de la communauté queer et trans. Et c'est le cas de beaucoup de monstres les plus vulnérables. D'où l'importance de redéfinir la solidarité pour les y inclure. C'est pour ça que je suis favorable à l'idée d'exprimer notre soutien aux monstres. Ils font certainement déjà partie de notre mouvement, mais ont choisi de garder le silence.
Les monstres aussi présentent une grande diversité, allant des loups ou chiens-garous et autres métamorphes jusqu'aux sorcières et dragons en passant par des technomages, des selkies ou encore des prédicatrices mythologiques. Turnbull lui-même explique sa démarche ainsi.
Ce que je voulais faire avec ce livre, c'était prendre des monstres que nous connaissons tous et les relier à une étude intersectionnelle. Comment le fait d'être marginalisé de différentes manières affecte-t-il votre monstruosité? Comment le fait d'être racisé ou homosexuel affecte-t-il votre côté monstre ou votre relation au monde en tant que monstre? Vous savez, j'étais vraiment intéressée par une exploration plus nuancée des différents types de monstres et comment ça se croise avec les questions de classe. Les vampires sont généralement associés à des personnes plus riches. Leur expérience de monstre est donc très différente de celle des loups-garous du livre, qui sont issus de populations vulnérables. Beaucoup d'entre eux étaient sans-abri et cela affecte leur relation avec leur côté monstre et leur relation avec le monde.
Il y a encore un autre type de personnage dans le roman Ni Dieu ni monstre. Après la fracture, le moment où l'existence des monstres est relevée au monde, il y a, comme lors de chaque crise de société, des gens qui voient derrière tout ça un grand complot des forces du mal et qui cherchent des coupables. Et là encore, Turnbull nous permet de plonger dans la réalité du personnage, de voir qu'on peut quelque part expliquer ses attitudes et réactions sans pour autant les justifier. Au final, par son écriture, Turnbull rend tous ses personnages très humains, même s'ils sont monstrueux, on ne les aime pas forcément, mais dans leur réalité à eux, ils font sens.
Pour Harry, ces messages étaient la preuve qu'il se passait quelque chose à grande échelle. Des personnes qui, d'ordinaire, se connectaient une ou deux fois par semaine, passaient leur journée à y rédiger des messages ou à discuter. On s'aiguillonnait jusqu'à se perdre en des recherches ultra pointues et revenir présenter ses découvertes aux autres. Ces loups-garous étaient-ils des magiciens? Les membres d'une société secrète? Les victimes d'une épidémie? Un message sur l'histoire des pratiques vaudoues afro-caribéennes et de l'obéia. Un autre sur les expériences occultes réalisées sur des groupes marginalisés au début du XVIIIe siècle. Tout le monde traînait sur le forum pour échanger des idées sur ces vieux sujets, en sachant qu'il s'agissait d'une conversation sur un problème très actuel. Nul n'évoquait explicitement les vidéos des monstres, mais tous les avaient à l'esprit. C'était la toile de fond de leur discussion. Harry se mit à dormir avec la lumière allumée. Plusieurs fois dans la nuit, il allait vérifier que la porte d'entrée était bien fermée. Il écoutait de la musique jusqu'au lever du soleil. Ça l'aida, jusqu'à ce qu'il se mette à entendre, à la place de la batterie, des bruits de pas dans le couloir, des voix sous le champ, d'étranges murmures. Dans le roman « Ni Dieu ni monstre », l'auteur Cadwell Turnbull met en scène des relations entre des personnages avec beaucoup de finesse. La grande diversité de personnages lui donne aussi l'occasion de développer de nombreux types de relations, dont certaines sont très positives et renforçantes. Il décrit par exemple de chouettes relations qui sortent d'un cadre hétérosexuel et normatif.
La petite amie de ma femme est métamorphe. Attends, la qui de ta qui est quoi ? Ridley ne répond que par un sourire. « Merde ! Elle sait que tu es au courant ?» Ridley hoche la tête. « On est polyamoureux ?» Marcus se fige, comme s'il n'avait plus de jus. Ridley sait où il est parti. Il se heurte là encore à une différence existentielle. La conception qu'a Ridley de l'intimité et de l'inclusion n'a jamais correspondu à celle de Marcus. Toutes les conversations qu'ils ont eues autrefois, longues, douloureuses, sont toujours coincées entre eux. Même à l'époque, de près, Marcus ne comprenait pas l'asexualité de Ridley. Et maintenant, de plus loin, il se méprend encore. Il croit que c'est Lina qui a décidé de coucher ailleurs parce que ça n'intéressait pas Ridley. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Lina et Ridley se sont trouvés comme ils sont. Et ils s'aiment.
Pour décrire la relation entre Ridley, Lina et Rebecca, l'auteur met en avant la simplicité de leur relation, la stabilité affective qu'elle apporte, son côté chaleureux et soutenant. Il expose aussi la question du consentement qui s'applique à différents niveaux de la relation.
Une fois chez eux, il s'asseye au salon. Il la serre contre lui. Elle n'arrive pas à parler et il n'insiste pas. Elle se perd dans ses pensées et quand elle s'y arrache, une demi-heure est passée comme par magie. « Du thé ?» propose Ridley. Apparemment, il attendait sans rien faire qu'elle reprenne ses esprits pour lui en proposer. Quand elle hoche la tête, il disparaît dans la cuisine.
L'auteur décrit aussi des relations plus collectives. Il y a à la fois des amitiés, des bandes d'amis, qui parfois font partie d'une même association ou de groupes formels. Il décrit aussi des collectifs, notamment à travers la meute de Rebecca, un groupe de métamorphes qui sont amis et s'apportent énormément de soutien, que ce soit au niveau affectif, mais aussi dans le fait de partager la condition de loup-garou, l'impact de la transformation ou de la potentielle transformation sur leur vie. Y elles forment une bande d'amis et une meute de loups et de louves.
Rebecca connaît les membres de sa meute presque aussi bien que sa propre louve. Ils sont intelligents, capables de raisonner quasiment au même niveau que leurs humains. Des traces de la personne se cachent toujours dans le loup, mais le loup ne se résume pas à son humain. Il a son propre génie, sa propre conception de la mort. Les loups semblent impulsifs, mais ce n'est pas aussi simple. Leurs décisions, quoique mûrement pesées, donnent souvent la priorité aux menaces immédiates et secondaires. Ici, maintenant, la menace est évidente. Ici, maintenant, il faut agir. Là où l'humain hésiterait, pèserait le pour et le contre, le loup choisit la solution facile. Pour un loup, c'est la seule possible.
Les membres de la meute construisent aussi une solidarité matérielle et concrète entre eux, en habitant ensemble et en expérimentant la mise en commun de leurs revenus. Vous êtes toujours à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Campus Grenoble et Radio Dragon.
Aujourd'hui, on vous parle du roman « Ni Dieu ni monstre » de Caldwell Turnbull.
Caldwell Turnbull décrit aussi des histoires familiales complexes, avec des personnages qui s'aiment beaucoup mais se font du mal. Des manques d'attention, des sentiments d'abandon, des relations de jalousie ou de compétition. Il y a par exemple l'histoire de Sonia et Sundra. À la base, Sundra vit seule avec ses parents qui décident un jour d'adopter Sonia, qui n'a personne pour s'occuper d'elle.
Sundra bouda pendant des mois, attendant qu'ils cèdent, les faisant souffrir pour qu'ils se débarrassent de la môme. Elle ne concevait pas de pouvoir aimer Sonia comme une sœur. Elle était jeune, elle s'imaginait que ses parents seraient toujours là. Un jour ou l'autre, ils recommenceraient à n'aimer qu'elle, et ils vivraient tous les trois dans un amour éternel. Elle avait tout faux.
Par la suite, Sonia et Sundra deviennent très proches, mais leur relation restera toujours très complexe. Sonia est un soukounian, une créature capable de retirer sa peau et qui se nourrit de sang, et sans le vouloir, elle peut faire du mal à sa sœur Sundra.
Il y eut un torrent d'excuses. Sundra les accepta toutes, mais cela ne pouvait suffire à effacer l'incident. Ni l'une ni l'autre n'évoquèrent jamais une autre séance. Cela les éloigna un peu. La culpabilité, la honte et le ressentiment emplirent le vide qui se formait, s'emmêlèrent en un nœud impossible à défaire. Sundra lisait parfois la honte dans les yeux de sa sœur, malgré tous ses efforts pour la réconforter. Elle voyait également s'y refléter la peur qui l'habitait.
Il y a aussi l'histoire de Leina et de son frère qui ne se voyaient plus, qu'elle n'a pas su soutenir quand il en aurait eu besoin et qui est mort avant qu'elle ne puisse en rediscuter. Ou encore Ridley, qui a des choix de vie que ses parents ne comprennent pas du tout. Ou la relation de Rebecca à sa famille, qui s'est éloignée d'elle jusqu'à la mort de son père, mais qui garde une relation très complexe avec sa mère, entre l'amertume et l'inquiétude.
Après l'enterrement, dans la soirée, quand tout le monde fut rentré chez soi, Rebecca alla prendre sa mère dans ses bras et lui posa un baiser sur le front. « J'étais une fille abominable, » avoua-t-elle, envers ses deux parents, mais surtout envers sa mère. Celle-ci lui fit un sourire triste. C'est la vie, il ne faut pas réécrire le passé sous l'effet de la douleur. Rebecca aurait voulu lui dire de suivre son propre conseil, mais bien sûr sa mère espérait qu'il les aiderait toutes les deux. Un sortilège contre les aspects les plus traîtres de leurs caractères respectifs. Mais il était trop tard pour que la magie opère. L'incantation plana comme un fantôme et resta dans l'air. Inutile. Leur avenir était déjà gravé dans les regrets amers.
Mais Caldwell Turnbull ne raconte pas uniquement des relations complexes. Il décrit aussi des relations clairement abusives et violentes. Par exemple, il décrit la relation de couple de Harry en faisant ressortir les abus et les violences quotidiennes.
Il l'aimait, plus encore, il aimait que ce soit facile. Comme elle était peu exigeante, il lui donnait peu. Sur le moment, il n'avait pas compris que c'était une chance. qu'elle le rendait léger en lui épargnant son poids. Au début, il lui rendait l'appareil, mais il y était moins doué qu'elle. Peu à peu, il s'était fait plus pesant. Il attendait d'elle qu'elle prenne en charge davantage d'aspects de sa vie. Son métier le stressait, et quand il rentrait, il se mettait en colère s'il la trouvait en train de manger un sandwich. « Tu n'aurais pas pu nous commander un truc pour tous les deux ?» En fin de semestre, quand il devait corriger des partiels, il s'énervait qu'elle ne le soulage pas des tâches ménagères. « Tu ne pourrais pas ranger le salon ?» Sans penser que c'était lui qui avait fichu le bazar, sans penser qu'elle aussi avait des copies à corriger.
L'auteur Cadwell Turnbull décrit aussi l'enfermement et les sévices que subit Dragon, la brutalité physique et morale avec un rapport d'emprise très puissant. Il va aussi parler des conséquences de ces violences sur le psychisme de Dragon. Parler de violence amène donc l'auteur à parler de la question des traumas et de leur impact à long terme sur la vie des personnages. Et c'est assez explicite dans cette discussion entre Rebecca et Leina au moment de leur rencontre à propos du frère de cette dernière.
Dans la rue, les ennuis vous trouvent. Ça n'intéresse personne. Tout le monde s'en fiche. Quand on est aussi vulnérable que Lincoln, que moi quand ça m'est arrivé, les ennuis vous trouvent encore plus vite. Elle se caresse le sourcil, un geste personnel, intime. Vous comprenez ? Ce n'est pas une question, mais une limite qu'elle pose. N'en demandez pas davantage, dit Rebecca. Je ne répondrai plus. Je suis désolée. Ce n'était pas vous. Rebecca sourit et la tension, la colère, s'envolent de ses traits comme si elle n'y avait jamais été visible. Pour faire court, on a aidé Lincoln à se sevrer et à soigner les autres cicatrices. Il venait se racheter. Pourquoi ? Encore un sourire. Parce que le trauma est une porte ouverte par laquelle on fait passer notre entourage. Il faut se racheter. C'est la dernière des idées qui serait venue à Leina, qui se sont mises à nu.
Décrit comme ça, le roman Ni Dieu ni monstre peut paraître assez sombre. Mais l'auteur décrit aussi beaucoup de résolutions et de revirements qui permettent au personnage de se sortir de relations violentes ou d'aller mieux dans des relations complexes. Et l'une des possibilités que décrit Cadwell Turnbull, ce sont les solutions collectives pour faire face à la violence du monde comme aux violences interindividuelles.
L'idée d'une coopérative, de gens qui possèdent et gèrent ensemble des entreprises et des organisations, des immeubles d'habitation ou même des quartiers entiers, n'était pas encore intégrée aux mentalités. Même si le concept remontait au siècle dernier ou à l'Antiquité, selon à qui on posait la question. Il y avait plus de 4000 entreprises coopératives rien qu'aux États-Unis, mais leur mode de fonctionnement était très mal connu. Et les gens s'en fichaient, car ils considéraient l'idée comme une utopie absurde dans le genre du communisme ou de l'espéranto. Parmi les choses qui m'ont bien fait triper le roman Ni Dieu ni monstre, il y a notamment les nombreuses références à la culture pop. Turnbull sème par exemple pas mal de références à l'œuvre d'Ursula Le Guin dans son récit. La librairie coopérative où travaille Ridley s'appelle Anares Books, d'après la planète anarchiste dans Les Dépossédés, et ce n'est pas la seule œuvre de la grande dame de la SF qui inspire les réflexions des personnages.
Ridley regarde le poster de « L'autre côté du rêve ». C'était le premier roman de Le Guin qu'il avait lu. Il racontait l'histoire d'un homme dont les rêves modifiaient la réalité, un pouvoir transféré pendant un temps au psychiatre du protagoniste grâce à un appareil appelé « amplificateur ». Étrange comme le temps qui passe modifie la relation qu'on a avec une œuvre. À l'époque, Ridley jugeait cette histoire très éloignée de la réalité où il vivait. Aujourd'hui, il voit toutes les façons dont la réalité peut être écrite et effacée sous ses yeux. La vraie réalité, c'est effrayant. Alors, on façonne un erratz tout mignon et on y croit. Pour vivre, les gens se sont amplifiés eux-mêmes.
Dans un autre passage, Turnbull fait référence à des personnalités noires, par exemple, qui peuvent représenter certains moments ou postures de lutte. Et là encore, Il fait le lien avec la question de la monstruosité.
Sur un mur blanc, dans un cadre noir, il y a un tableau représentant Mohamed Ali au-dessus de Sonny Liston. Ali a les muscles saillants. Il montre les dents. Un grand tapis tressé est suspendu derrière la télé, fixé au mur. Un portrait de Bob Marley. Ses dreadlocks sont d'épaisses racines noires qui lui retombent sur la poitrine. Ridley a l'impression que les canines sont trop pointues.
Dans plusieurs interviews, Caldwell Turnbull explique comment il voit lui-même son roman. Également avec des références à la culture pop audiovisuelle.
Personnellement, je présente le roman de la manière suivante. Buffy contre les vampires rencontre The Wire, c'est-à-dire les problèmes sociaux et le folklore des monstres.
Alors pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas ces deux séries, Buffy contre les vampires se passe dans une ville située sur une bouche de l'enfer et donc envahie régulièrement par des démons de toutes sortes. Buffy et sa super bande de potes se donnent pour mission de les traquer et de libérer la ville du mal, mais évidemment c'est plus complexe. The Wire, sur écoute en français, est une sorte de drame policier converti en études sociologiques à Baltimore, une des villes les plus pauvres des États-Unis. Chaque saison analyse les dynamiques et rapports de pouvoir dans un milieu particulier, le trafic de stupéfiants, l'organisation du port maritime, la politique municipale, le système scolaire, les médias. Il se trouve qu'il s'agit là de deux séries que j'ai vraiment bien aimées. Et en tombant sur un article de Caldwell Turnbull parlant de Buffy, ça a piqué ma curiosité. Tout en admettant qu'il est fan, il fait remarquer qu'il s'agit d'une série bien blanche, que personne ne se serait intéressé à la problématique des monstres s'ils avaient fait surface aux îles Vierges plutôt qu'en Californie. Et il se demande pourquoi il n'y a jamais aucune journaliste pour questionner la corruption et les magouilles des politiciens et des flics qui cherchent à camoufler ce qui se passe. Une critique portée fortement dans The Wire. Tout ça pour dire que Turnbull maîtrise assez bien cet art de la création originale pour parler de thématiques sociales et politiques tout en divertissant et en mobilisant plein de productions culturelles déjà existantes. Pour finir, on peut dire que ce roman parle bel et bien de monstres. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne sait plus très bien ce que cela veut dire. Qui sont les monstres? Ceux qui se transforment en animal sauvage ou dévorent des humains ne sont pas forcément les plus monstrueux. Caldwell Turnbull nous fait aussi plonger dans les abîmes de la société bien humaine. Il joue de manière intéressante avec cette notion de monstre et nous fait ressentir tantôt attirance, tantôt rejet pour la monstruosité. Et évidemment, il y a bien plus de choses encore. Pour les grands fans d'ASF, sachez que dans le roman Ni Dieu ni Monstre figure aussi un petit cours d'histoire sur la physique quantique, l'univers qui traverse la pièce, et un beau mystère de multivers.
C'était le 32e épisode de Vortex et Rotative. On vous a parlé du roman « Ni Dieu ni monstre » de Caldwell Turnbull, publié aux États-Unis en 2021. La traduction française de Marie Surgé a été éditée en 2024 par l'Atalante.
Le roman fait 349 pages et il s'agit du premier tome de la trilogie Convergence. Le deuxième tome, « Nous sommes la crise », est déjà publié chez le même éditeur.
L'émission est montée avec des bouts de musique de Lynn Hood, projet solo de la musicienne et compositrice grenobloise Chloé Delavallée.
On est toujours à un rythme bimestriel et on vous retrouve donc dans 2 mois avec un nouvel épisode de Vortex et Rotative.
Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative sur Radio Dragon et Campus Grenoble.